Alors, on va reculer un tout petit peu, ou un peu beaucoup, jusqu'à Parchat Yitro, et au Perek Yud-Tet, au Pasuk Hey, la Torah dit, c'est Hachem qui parle, Ve'ata, et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ushmartem et briti, et vous gardez mon alliance, li'itemli segula mikolamim, alors vous serez un trésor parmi tous les peuples, ki li kol haaretz, et vous serez tiuli, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Ele Advarim Asher Tedaber El Bnei Israël. Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu, on est avant les Aseret HaDibrot. Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de parler aux Bnei Israël et de leur demander, enfin leur dire, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Alors, Rashi a expliqué, Shmartem et Briti, gardez mon alliance, de quelle alliance s'agit-il? Rashi a dit, Sheerot, l'alliance que je ferai, je scellerai, c'est un futur. Imachem al Shmirat ha Torah. C'est-à-dire, c'est une alliance qui n'a pas encore eu lieu. Et si vous gardez cette alliance, alors vous serez un trésor, etc. Et comme vous le savez, les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu leur a dit tout ce qu'Hachem lui avait ordonné de dire, donc en particulier cela, les Bnei Israël ont répondu. Ils ont dit que tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons. Vayanu cholaam yardav, le peuple a répondu, tous ensemble, ils ont dit, kol asher diber Hachem naaseh. Nous ferons tout ce qu'Hachem a dit. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est quoi cette alliance? Comme Rashi a dit, c'est une alliance que je conclurai avec les Bnei Israël dans le futur. Alors, cette alliance-là, elle va être énoncée ici dans la Parshat Mishpatim. Alors, dans Mishpatim, on va passer directement à cette alliance-là. C'est le chapitre 24, Tavdalet. Alors, on va lire quelques mots avant ce chapitre 24. Où Hachem a dit tout ce qu'il ferait par rapport aux Goïm, mais il leur dit, il dit au Bnei Israël, au verset 32 du chapitre 23, Lo tirkot lahem ve'lelohem brit. Vous n'avez pas le droit de conclure une alliance avec ces peuples cananéens, ni évidemment avec leur Dieu. Et vous ne les laisserez pas pratiquer l'idolâtrie sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que, ou bien ils s'engagent à ne plus pratiquer l'idolâtrie, ou alors il faut les chasser ou les tuer. Et le chapitre 24 commence. qui dit, Vel Moshe Amar, allez El Hachem, il dit, monte vers Hachem, Ata ve Aaron, Nadav va Vihu, Veshivim Mizikne Israël, Pishtahavitem Merachok. Tu vas monter avec Aaron, Nadav et Avihu et 70 Kenim, et vous vous prosternerez de loin. Venigash Moshe Levado, et seul Moshe s'approchera d'Hachem, les autres non, et le peuple ne montera pas du tout sur la montagne. Vayavo Moshe, Vaïsaper la'am et kol divrei Hashem, v'et kol ha'mishpatim, vayan kol ha'am kol echad, vayomru kol ha'dvarim asher diber Hashem na'aseh. Les nés Israël redisent tout ce qu'Hashem a dit, on va le faire. Alors le problème, c'est cet épisode-là, je n'ai pas lu la totalité pour l'instant, cet épisode-là, il a lieu quand? Alors Rashi dit, c'est en fait une marloquette entre les commentateurs. Rashi dit, Parshazu Nemra Kodem Aseret Adibrot. Cette paracha, elle a été dite avant les 10 commandements. Elle a été dite le 4 Sivan. Vous vous souvenez? Dans la parasha Yitro, on avait dit que les Bnei Israël étaient arrivés dans le désert du Sinaï. Et on disait que c'était Bachodesh HaShlishi, le mot Chodesh dans la Torah, il ne veut pas obligatoirement dire le mois, il veut dire Rosh Chodesh, le moment où c'est vraiment le renouveau. Bachodesh HaShlishi, ça veut dire Rosh Chodesh du troisième mois, Nissan, Iyar, Sivan, donc Rosh Chodesh Sivan, le premier Sivan, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Et ce qui nous a été raconté, que je vous ai lu de Parshat Yitro, ça a eu lieu ces jours-là. Et après, Moshe est monté, etc. Et de fil en aiguille, on est arrivé au 4e jour du mois de Sivan. Et donc, ce qu'on a là, c'est le 4e jour. Je vous rappelle, Matan Torah, c'est 3 ou 4 jours après ça. Donc on est avant Matan Torah. Et on nous dit ici, Vayavo Moshe, Vayisaper la'am bo bayom. C'est-à-dire le même jour où Hachem lui a ordonné, il l'a raconté au peuple. Vayisaper la'am. C'est un drôle de mot, Vayisaper. C'est qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qu'il a raconté au peuple? Et kol divrei Hashem, mitzvot prisha vehagbala. C'est-à-dire, il leur a dit les lois de nécessaires pour l'instant, c'est-à-dire le fait que ils vont devoir les hommes et les femmes vont devoir mettre en sourdine, enfin, ne pas avoir de rapport intime, pardon, pendant ces jours-là, pendant 3 jours. Et puis, le peuple n'aura pas le droit de monter sur la montagne. Toutes ces restrictions-là, Moshe le leur a dit, ça s'appelle Sippour. Vet kol ha'mishpatim, le texte dit, il leur a dit, mon cher Abbé nous, en fait, il s'appelle la et kol divrei Hashem, v'et kol ha'mishpatim. Alors Rashi explique, c'est quoi kol ha'mishpatim? Mitzvot shenitztavu bnei Noach. Moshe Rabbeinu leur a enseigné les mitzvot des bnei Noach. Les bnei Israël, avant Kabbalat la Torah, ils sont des bnei Noach. Alors, en fait, on pourrait discuter ce point-là parce que dans Yitro, il est déjà marqué que les Bnei Israël ont dit on fera tout ce qu'Hachem nous dira de faire. Et en acceptant de faire tout ce qu'Hachem nous dira de faire, c'est comme ça qu'ils sont devenus les Bnei Israël. Dans les Aseret HaDibrot, il n'y a pas d'engagement. Hachem a parlé, c'est tout. Ils ont entendu Hachem parler, mais il n'y a pas d'engagement. L'engagement, il était dit dans Yitro, il est redit ici, il va être redit encore avec un peu une extension, un peu plus que ça. Et voilà, il leur a enseigné les mitzvot shenistavu bnei Noach, plus Shabbat, Kibud Avaim, Parah Aduma, et les dinim, et toutes sortes de dinim dans le code civil, si vous voulez. Shenitnu lahem, alors ces dernières choses-là, elles ont été données au Bnei Israël à Mara, à l'épisode qui s'appelle Mara, c'est-à-dire à cet endroit-là où l'eau était amère et où Hachem a montré à Moshe Rabbeinu comment il pouvait adoucir l'eau. Et là-bas, on a reçu déjà des mitzvot. Alors, ça c'est Moshe a parlé tout ça. Et ensuite, le passouk dit, Vayichtov Moshe. Ensuite, donc, pardon, excusez-moi. Là, le peuple a répondu, Naaseh. On va faire ça. Ce que tu nous as dit oralement, là, ben, que tu as été mes sapeurs, on va le faire. Et ensuite, Vayirtov Moshe et Kol Divrei Hashem. Et Moshe Rabbeinu a écrit toutes les paroles d'Hashem. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit là maintenant? Est-ce qu'il a mis par écrit ce qu'il leur avait dit oralement? Rashi dit, Vayirtov Moshe, il a écrit Mi Bereshit Vlad Matan Torah. Vekatav, il a aussi écrit Mitzvot Shenitztavu Bemara. Il a aussi écrit les mitzvot qui nous ont été donnés à Mara. Alors, il y a une grande question. Une question que le Briskerov avait posée. Je pense que d'autres avaient posé avant, mais moi, je la connais que de ce que le Briskerov va demander. Il a posé la question suivante. Moshe Rabbeinu, il a écrit quelque chose ici. Ce Sefer, par la suite, ce qu'il a écrit, va s'appeler Sefer Abrit, le livre de l'Alliance. C'est de cette alliance qu'on avait parlé dans Parshat Yitro. Hachem a dit, si vous respectez l'Alliance, intéressant, le Sefer Abrit, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Abrit? Les mitzvot d'Ebnei Noach et les quelques mitzvot qui ont été donnés à Mara. Maintenant, il écrit, le Passouk dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit la Torah, a priori. On pourrait croire que c'est la Torah qu'il a écrit, mais c'est marqué depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Ok, là ça va. Mais il a écrit ce qu'on a été donné, les mitzvot qui ont été donnés à Mara. Elles ne sont pas dans la Torah, les mitzvot de Mara. Elles sont dites de façon allusive, mais elles ne sont pas explicitées dans. On ne nous dit pas à Mara, on a reçu cette mitzvot-là. Alors le Briskerov s'était demandé. Tivat Sefer Abrit. Est-ce que c'est un digne de Tivat Sefer Torah? Est-ce que c'est une forme d'écriture du Sefer Torah? Ou bien est-ce que c'est un digne spécifique pour ce Sefer Abrit? Et il a dit qu'on ne peut pas dire que c'était un Sefer Torah, dans la mesure justement, puisque premièrement, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, elle n'a pas encore été donnée, puisqu'elle sera dite dans Parshat Ki Tissa seulement. Là-bas, ce sera marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Tov lecha et advarim ha'ele, etc. C'est là-bas qu'on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc c'est difficile de dire que ce que Moshe a fait, c'est déjà l'écriture d'un Sefer Torah, alors que la mitzvah n'a même pas encore été donnée d'écrire un Sefer Torah. Et plus encore, c'est difficile de dire que c'était un Sefer Torah, parce que dans Sefer Abrit, il a écrit mitzvot shenitztavu bemara. Les mitzvot qui ont été écrites à Mara, données à Mara. Aré à mitzvot shenitztavu bemara, lo nirtevu beferush batora. Rak nirmezu bekra. D'où est-ce qu'on sait qu'à Mara, il nous a donné ces mitzvot? C'est marqué dans le passouk, sham sam lo chok u'mishpat. Là-bas, à Mara, il nous a donné chok et mishpat, c'est-à-dire des sortes de mitzvot. Et en plus, il n'a pas écrit dans le Sefer Torah les autres mitzvot. S'il a écrit jusque-là, alors, c'est pas évident, mais il aurait dû écrire les mitzvot tout ce qui concerne le Korban Pessah, ouais, qui a été dit dans les parchiot précédentes. Donc, de là, il apprend, où est-ce que Rav veut dire, là, on apprend que c'était une halakha spécifique d'écrire le Sefer HaBrit. Donc, voilà, il y a un Sefer HaBrit qui, ensuite, évidemment, a disparu, et qui est très étrange parce que les Bnei Israël se sont engagés à quoi? Aux mitzvot des Bnei Noach et à quelques mitzvot par ailleurs. Bon, techniquement, au fait qu'il a dit que les mitzvot de Mara ne sont pas écrites dans la Torah, ce n'est pas tellement dérangeant, dans la mesure où peut-être on ne veut pas dire que écrire qu'elles ont été données à Mara, mais celles qui ont été données à Mara, qui ensuite sont des mitzvot qui vont être données dans la suite, alors il les a déjà, elles aussi, déjà mises dans pas en tant que ce qui a été donné à Mara, mais en tant qu'elles vont être plus tard des mitzvot. Donc c'est un peu compliqué de dire ça. Donc, en tout cas, lui, il pense que c'est un sefer à part. Alors ça va être un peu problématique par la suite. Ensuite, mon cher Rabbeinu a construit un misbéach. Il a construit un autel au pied de la montagne. Il a mis 12 stèles. Une stèle, ça veut dire c'est une pierre debout, qu'on a mise debout, correspondant bien sûr au Shnem Asar Shivtei Israël, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Et puis, il a ordonné au Nahare Bnei Israël, il a ordonné. Alors, les Nahar, ça veut dire les jeunes gens, a priori, mais ici, ça veut dire les Bechorot, les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'on est avant la désignation qui fait suite à la faute du veau d'or, des descendants d'Aaron comme étant les Kohanim. Jusque-là, ceux qui jouent le rôle de Kohanim, les prêtres, si vous voulez, ce sont les premiers-nés. Et donc, il a envoyé les premiers-nés, Vaishlach et Nahare bnei Israël, Vayahalu, Olot, Zvachim, Shlamim, Lachem, Parim. Donc, ils ont ces prorodes, donc les Kohanim de service, là, ils ont fait les sacrifices avec des taureaux. Moshe Rabbeinu a recueilli le sang. Vous vous souvenez, on avait dit, dans un korban, il y a toujours deux parties. Une partie qui concerne le sang et une partie qui concerne la chair. Avec le sang, quand on aura un Beth Amikdash ou quand on a un autel, ils avaient un autel, ici, alors on asperge, on recueille le sang de la Shrita. Et on asperge des gouttelettes avec l'index, on asperge des gouttelettes de sang en direction du Mizbéar de l'autel. Mais là, peut-être qu'ils l'ont fait, et qu'avec le reste du sang, mais en tout cas, a priori, Moshe Rabbeinu, il a recueilli le sang, et il va en faire quelque chose d'étonnant. Vaikar Moshe Chatsi Adam, il a pris la moitié du sang. Rachid dit une drôle de chose. Pourquoi il n'a pris que la moitié? Parce qu'il y a une autre moitié qui a été prise par un malar. Il y a un malar qui est venu, qui a pris. Il a fait main basse sur la moitié du sang. C'est pas très bien, bon. Et Moshe Rabbeinu a pris la moitié du sang qui provenait donc de ces taureaux. Zarak al et il les a jetés sur l'autel et il a pris le Sefer HaBrit, il a pris le livre qu'il avait écrit, Vaikra Bozne Ha'am, et il l'a lu aux oreilles du peuple. Donc, le peuple entend la lecture. Dans cette lecture, il va entendre on a vu ce qu'il y avait dans le. C'est la Torah depuis Bereshit jusqu'au début de Mishpatim, jusqu'à Yitro, enfin une grande partie d'Yitro, un peu avant, puisqu'on est le 4 Sivan, jusqu'au 4 Sivan, si vous voulez. Depuis Bereshit jusqu'au 4 Sivan. Le Katsiman. Et il a pris ce Sefer, ce livre, il l'a lu. Donc, pour les Bnei Israël, ce qu'ils entendaient de nouveau, c'est la partie depuis Bereshit jusqu'au Katsiman, parce que les Shema Mitzvot des Bnei Noach, Moshe leur avait déjà lu avant, et les Mitzvot de Mara aussi. Donc ça, il connaissait, il le réentend une deuxième fois. Et là, ils répondent, Vayomru, Kol asher diber Hashem, naaseh venishma. Donc il répète, tout ce qu'Hashem a dit, on va le faire, ça, il l'avait déjà dit deux fois, ils le disent maintenant une troisième fois, et ils étendent cela, ils disent quelque chose de plus, ils disent venishma. Et alors après, Moshe Rabbeinu a pris le sang. Quel sang, puisqu'il l'avait jeté en direction. Il a dû en rester. Va Yizrok alam. Et il a aspergé ce sang sur le peuple, en direction du peuple. Et il leur a dit, Hine dam abrit. Voilà, ce sang, c'est le sang de l'alliance. Asher karat Hashem imachem al kol hadvarim ha'ele. Sur toutes ces paroles-là. Donc, les Bnei Israël se sont engagés par alliance avec Hachem sur le contenu de la Torah jusqu'au Katsivan, sur les mitzvot des Bnei Noach et sur les mitzvot de Mara. Et après, Moshe, Aaron, Nadab et Abihu et les Zkenim sont montés un peu sur la montagne, tous ensemble. Et à mi-chemin, Moshe a continué tout seul. Alors, on a encore un peu de Rashi à voir. Le sang en question que Moshe a pris, donc c'est la partie que le Malach lui avait laissée, il l'avait recueilli dans des Haganot, c'est-à-dire des Haganot, Echad le Chatzi Dam, Ola, ve Echad le Chatzi Dam, Shlamim, la Zototam, Al-Ham. En fait, il y avait deux récipients, un qui recueillait le sang des animaux qu'on a égorgés pour en faire un holocauste, et l'autre pour recueillir le sang des animaux qu'on a recueillis pour en faire un corban shlamim. Un corban shlamim étant un corban qui va être essentiellement mangé par les propriétaires, par les Bnei Israël, sauf un tout petit peu qui va être grillé sur le Mizbeach. Alors Rashi annonce ici que Mikan Lamdu Rabotenu, de ce qui vient de se passer là, nos maîtres ont appris chez Avotenu, que nos ancêtres sont entrés dans l'alliance avec la Mila, avec la Tvila, immersion dans un mikvé ou dans une source, Ve'azad Damim, et on leur a jeté du sang. Alors d'où est-ce qu'on sait Tvila? C'est pas écrit dans le texte. La Mila, ils l'ont fait, ça on savait, parce qu'il a on était obligé de la faire pour pouvoir manger comme un Pessah. Mais où est-ce qu'on voit qu'ils se sont immergés dans un mikvé, quoi? Parce qu'il y a une halakha qui dit que en azaa belot vila. Il n'y a jamais de azaa, il n'y a jamais de gouttelettes jetées sur, là en l'occurrence du sang, mais ce serait la même chose avec de l'eau, enfin de l'eau, avec de l'eau travaillée un peu, sans qu'on ait préalablement procédé à une tevila, à une immersion. Donc on sait qu'il y avait une immersion. Donc voilà comment les Bnei Israël sont entrés dans l'alliance avec Hachem. Entrer dans l'alliance avec Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ça veut dire qu'ils sont, en tout cas, ils sont devenus les Bnei Israël à ce moment-là. Ce qui est très curieux, c'est que ces Bnei Israël, ils se sont engagés sur les mitzvot des Bnei Noirs. Or, nous n'avons plus les mitzvot des Bnei Noirs. Ou plus exactement, les mitzvot des Bnei Noirs, elles vont prendre une autre forme. Vont prendre une autre forme. L'interdit de tuer, etc., pour les Bnei Israël, ne sera pas exactement le même que l'interdit de tuer pour les Bnei Noirs. Quand on aura reçu les Aseret HaDibrot, il faut comprendre que c'est les mitzvot qui vont recouvrir formellement les mitzvot des Bnei Noach, elles vont prendre leur place, quoi. En particulier, par exemple, les sanctions sont pas exactement les mêmes, pas obligatoirement les mêmes. On verra. Et donc, ça c'est Rachid. La vérité, c'est que y a beaucoup de mefarshim qui ne sont pas d'accord avec Rashi et qui pensent que tout ça, ça a lieu après Matan Torah. Et si on pense que ça a lieu après Matan Torah, alors pour le coup, c'est vraiment très difficile d'imaginer que les Bnei Israël se sont engagés sur la mitzvot des Bnei Noirs. S'engager sur les mitzvot des Bnei Noirs, puis ensuite s'engager à plus, ça va. Mais si tu t'es engagé à plus, à quoi ça sert de s'engager à moins? C'est inclus déjà. N'empêche, il y a le Ramban et d'autres grandes pointures qui pensent que ça a eu lieu après, parce que Rashi dit, on peut très bien dire que ce qui est écrit dans Mishpatim a eu lieu avant, parce qu'il y a toujours ce fameux principe que il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. En mokdam ou meokhar ba Torah. Mais eux ils répondent en disant que ça, on le dit on ne le dit que quand on est obligé de le dire. Mais comme on n'est pas, nous, on n'est pas capable, on considère qu'on n'est pas obligé de le dire, puisque nous lisons que ça a eu lieu après. Donc, comme on n'est pas vraiment obligé, alors on ne va pas le dire. Et si on ne le dit pas, alors il faut le lire là où c'est écrit dans la Torah, dans Mishpatim, c'est-à-dire dans la paracha qui suit la paracha de Aseret HaDibrot, et pas qui la précède. Donc, d'après Rashi, d'après ce qu'on a vu, mon cher Rabbeinu lit, ou il raconte, il s'appelle, un drôle de mot, il raconte aux Bnei Israël. Il leur raconte. Vous vous souvenez? Hein, je leur raconte. Raconter. Et puis ensuite, il l'écrit. Et puis ensuite, il le relit. Quasiment, il le lit avec un peu plus, mais il le relit la même chose. Alors, on peut objecter à Rashi, et d'ailleurs, le Ramban ne se prive pas de l'objecter, qu'en fait, de ce bouleversement que fait Rashi de l'ordre chronologique, en fait, s'impose pas du tout. Mais comme je vous ai dit, le Ramban pense que ça ne se justifie que quand on n'est pas, quand on ne peut pas faire autrement. Maintenant, la grande question, en fait, d'après la lecture de Rashi, c'est quoi cette histoire qu'il leur raconte? On comprend pas très bien ce que ça peut vouloir dire, que Moshe raconte au peuple les paroles d'Hachem. Rashi avait expliqué que dans ce qu'il a raconté, vous vous souvenez, c'est l'obligation de se séparer, que les hommes et les femmes n'aient pas de relation intime, et puis l'interdit de grimper sur la montagne. Donc tout ça, c'est des préparations. Ce qu'il raconte là, c'est une préparation pour Aseret HaDibrot. En d'autres termes, d'une certaine manière, ce qu'il racontait là, ce qui est dit là, ben ça se chevauche avec ce qu'on avait déjà dit dans Parshat Yitro. Non, mais lui, Rachid, là, il a inversé l'ordre. Parce que c'est écrit dans Parchat Mishpatim. Mishpatim, c'est après Yitro. Donc, ce que Ramban lui reproche et d'autres, c'est pourquoi tu as inversé l'ordre. Il faut lire ce qui est écrit ici comme quelque chose qui a eu lieu après Matan Torah. Donc, Rashi fait de ces lois de préparation à Aseret HaDibrot le sujet du Sippour de Moshe Rabbeinu au peuple. Et c'est à ça que les Bnei Israël ont répondu, Naaseh, on va faire. Pardon? Aux lois de préparation que Moshe leur a proposées, enfin présentées plutôt. A priori, raconter, le Ramban dit, est-ce que Vaïssaper, est-ce que ça suggère pas quelque chose de nouveau? Et ces choses-là, ces Sheva Mitzvot des Bnei Noach, ils les connaissent depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on leur raconte un truc qu'ils connaissent depuis longtemps? On peut se rappeler ici que Moshe Rabbeinu a raconté à Yitro, vous vous souvenez, il lui a raconté la sorte, il lui a raconté ce qui est arrivé en Égypte et la sortie d'Égypte. Or, une des raisons pour lesquelles Yitro est arrivé, c'est qu'il a entendu la sortie d'Égypte. Donc il savait. Alors qu'est-ce que Moshe lui a raconté? Il le savait. Donc on voit très bien que raconter, ça peut être très bien raconter quelque chose qui est parfaitement connu par celui auquel on le raconte. D'abord, on avait l'impression que le récit de Moshe Rabbeinu était un peu redondant par rapport à pour Yitro. Mais on ne peut pas négliger le fait que là-bas, Moshe Rabbeinu racontait vu de l'intérieur, vu du côté de qu'est-ce que Yitro avait entendu, ce qu'on en racontait de l'extérieur. Mais Moshe lui a parlé, lui a dit comment ça a été vécu de l'intérieur. C'est probablement une autre affaire. Donc, c'est pas tellement là-bas, c'est pas vraiment le même exemple. Le texte de Moshe Rabbeinu. Celui qu'il a lu au peuple, c'est l'histoire du monde depuis la création jusqu'au 4 Sivan. Donc il leur raconte toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et c'est à ce récit-là que le peuple a répondu, tout ce qu'Hachem a dit, on va le faire. Et quand ils vont répéter, ben c'est toujours sur ce Sefer HaBrit. Donc ils vont dire, on va le faire et on va entendre. Naaseh v'nishma. D'habitude, on dit toujours que le Naaseh v'nishma, c'est sur toute la Torah. D'après ce que Rashi a expliqué, ça ne concerne pas du tout toute la Torah. Et en plus, si on prend, qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Bereshit, il n'y a rien à faire. Il y a la Brit Mitzvah de Mila, bon, ben ça, ils l'ont faite, en gros. Et puis après, il y a les Mitzvot du Korban Pessah. Le Pessah, ils l'ont fait. Donc, cette année-là, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que dans l'année prochaine, mais Ça n'a pas été donné encore, le Korban Pessah. La mitzvah de Korban Pessah, elle n'a pas été donnée à ce moment-là. Ils ont fait quelque chose qu'on a appelé Pessah. Mais ils s'engagent à des trucs qui existent, enfin, qui leur ont pas. Ils se sont engagés à quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. Et ils ne sont même pas engagés à on fera ce que tu nous diras. On dit ce qu'Hachem a dit. Donc ils ne sont pas engagés sur ce qu'Hachem va dire par la suite. Non, non, non. Et là, cette lecture-là, elle est au milieu de tout un processus avec du sang, avec des aspersions, des machins, tout un rituel, quoi, si vous voulez. C'est pas rien du tout ce qui s'est fait là. La moitié du sang, etc. Mais en fait, il y a un livre. Ils se sont engagés sur un livre. Mais c'est Sefer HaBrit. Mais pour Rashi, ce livre-là, c'est la Torah, quoi. C'est la Torah, la Torah jusqu'alors. Donc avant les 10 commandements et avant toutes les mitzvot que Moshe Rabbeinu va leur enseigner par la suite. Donc on est en train de s'engager à quelque chose qui n'a même pas été mentionné, etc. On entre dans quelque chose d'assez difficile. Attention, les Asherah Tzibot n'ont pas été donnés encore pour Rashi. Shabbat, seulement Shabbat. La mitzvah de Shabbat, c'est tout. Vous pouvez le penser, mais vous ne pouvez pas le prouver. C'est pas... Donc, avant, visiblement pour Rashi, avant que les Bnei Israël reçoivent les Aseret HaDibrot, ils doivent entrer dans une alliance avec Hachem. L'alliance, elle porte sur les lois des Bnei Noach. Et sur quelques lois, et plus quelques lois qui ont été données quelques semaines avant. Pardon?
On va voir avec les lois des Ménoirs.
Alors, les Bnei Israël, jusqu'au moment où ils reçoivent la Torah, ils sont des Bnei Noach. OK. Ils se sont engagés à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un échantillon de la Torah, plus les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Pardon? Alors, on va voir. Et après, il n'y a pas d'engagement dans cette Hadibrot. Si on ne dit pas, comme les autres, que l'engagement de ce brite-là, il a lieu après les Aseret Hadibrot, ça a lieu après les Aseret Hadibrot, alors on pourrait dire, quand ils disent que la chair d'Iber Hachem n'a assez venishma, ça porte sur toute la Torah. Je veux bien, mais si tu le places avant, alors ils sont engagés avant. Visiblement, il y a, pour Rashi, il faut entrer dans l'alliance avant de recevoir les Aseret HaDibrot. C'est une alliance, c'est ça. C'est un brite. On apprend que les Bnei Israël sont entrés dans l'alliance avec, comme dit Rashi, ils sont entrés avec Mila, Tvila et Azat, Adam et le sang.
Je peux faire une petite parce que j'avais cru comprendre que ce n'était pas encore des vrais Israël.
Ils sont pas les Bnei Israël encore. Ils sont des Bnei Israël formellement. Ils sont les descendants d'Israël. Mais si par Bnei Israël vous pensez des gens qui ont accepté la Torah, ils ne le sont pas encore. Rachid dit très bien ce qu'il dit. Ils sont entrés dans le Brit. Il n'a pas dit qu'ils sont devenus Bnei Israël. Ils sont entrés dans un Brit. Non, c'est ça, il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait entrer dans un brit, puis ensuite le modifier, en modifier le contenu, quoi. On est entré dans un brit qui avait les sept mitzvot plus Mara, puis ensuite on va faire une assemblée générale et on va modifier le code, l'ensemble des engagements. Tout à coup, commençons à dire, on va modifier le. Comment ça s'appelle? L'énoncé de l'association, quoi. Pas seulement les statuts, mais on pourrait dire les statuts, mais c'est aussi le but. Comment ça s'appelle? Le but de l'association, elle a un but. Et le but, c'est de respecter l'alliance avec Hachem qui porte sur toute la Torah, sur les 613. Non, ça exclut parce que les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, comme tel, on n'est pas astreint à ces mitzvot-là. On est astreint, et ces mitzvot, elles existent chez nous, l'autre tu ne tueras pas, etc., ça existe chez nous aussi, mais ça n'a pas le même sens que dans les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Et ce n'est pas obligatoirement toujours plus grave. Par exemple, eux, ils ont un interdit de tu ne tueras pas qui porte sur les oubarines, sur les enfants dans le ventre de leur mère, les fœtus. Chez nous, le tu ne tueras pas, il ne porte pas là-dessus. C'est interdit de les tuer, mais si on les tue, on ne se casse pas le tu ne tueras pas. Les goyim, oui, mais pas nous. En fait, dans le texte dont on a parlé, Yitro, dans le texte qui est de Yitro, je vous ai dit, le texte dit, Vayi bachodesh hashlishi, qui fut au Rosh Chodesh au troisième Rosh Chodesh, etc. Le Mesher Chochma, il fait remarquer que c'est une façon tout à fait inhabituelle de présenter un événement historique. Dans la Torah, toujours, quand on a un cas de ce genre-là, qu'on veut mettre en scène quelque chose en disant à quel moment ça a eu lieu, il y a toujours un vav. Vayhi bayom, et ce fut. Tandis qu'ici, il n'y a pas de vav. Alors, il voulait dire que c'est une façon de suggérer qu'il y a une disjonction. S'il n'y a pas de vav, normalement le vav, c'est toujours un vav de liaison. Donc s'il n'y a pas de vav, ça veut dire qu'on a supprimé la liaison avec ce qui a été dit avant. comme si ce qui a été dit avant, c'était un autre livre. Et ce livre-là, mon cher ami nous l'écrit, et il le lit. Et à partir de ce Rochrodesh du troisième mois, commence un nouveau livre. Qui normalement devrait être écrit après les Aseret HaDibrot et commencer comme Bereshit. Bereshit, il ne commence pas avec un verbe de liaison, il n'y a pas. C'est une rupture. Et du coup, le Mesher Chokhma, il apporte un support, si on peut parler comme ça, à Rashi. Le texte de la Torah porte une trace de cette rupture entre avant le Sinaï et après le Sinaï. Y a une fissure, il manque le vav, qui indique un moment, il y a un moment avant la révélation, avant le Aseret HaDibrot, avant qu'Hachem se soit révélé, où le peuple a accepté une alliance basée sur le récit, un récit du monde. C'est-à-dire que ce continuum, si vous voulez, impensable, qui a lieu jusqu'au Sinaï, les Bnei Israël sont exposés à ce récit qui en fait ferme le passé pour ouvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et la nouveauté du Sinaï, du moment Sinaï, si vous voulez, c'est ça le sujet de Rashi. C'est ça que Rachid veut mettre en évidence. Asperger avec le sang et s'immerger dans le tvila, etc. Et il y a une tvila, puisqu'on sait qu'il ne peut pas y avoir d'aspersion sans immersion d'abord. L'immersion, c'est toujours symboliquement une espèce de renaissance. Bon, on sort de l'eau, c'est toujours partout, non? C'est l'émergence vers une nouvelle vie. D'ailleurs, c'est bien de cette manière-là que quelqu'un qui se convertit entre dans le clan Israël. Il y a un sefer un peu chassidique, un commentaire chassidique, Maor Vashemesh, un commentaire du 19e siècle, qui s'arrête sur le fait que les Bnei Israël ont dit tout ce que Hachem a dit, Naaseh Venishma. D'après Rashi, ces gens-là, ils n'ont rien entendu. Ils n'ont encore rien entendu d'Hachem. Alors, ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est ce à quoi ils s'engagent, etc., c'est les fameuses sept lois des Bnei Noach et les lois de Mara. C'est des lois qui peuvent être présentées comme des bases de la civilisation, si vous voulez. Une espèce de loi naturelle. interdit du meurtre, des mœurs sexuelles sauvages, enfin n'importe lesquelles, le vol, honorer son père et sa mère, le Shabbat comme jour de repos. Tout ça, c'est des institutions que toutes les sociétés peuvent accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont accepté alors? Si c'est une loi naturelle, qu'est-ce qu'ils ont vraiment accepté? Ils ont accepté que ces lois-là, qui apparaissent comme des lois naturelles, sont des lois qui sont conformes à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, on ne les applique pas parce qu'elles sont des lois naturelles, mais parce qu'elles sont les lois d'Hachem. Et ceci avant que la Torah soit donnée. Donc, Moshe Rabbeinu veut faire avancer le peuple. Il veut faire en sorte que le peuple accepte les anciennes lois de la création jusqu'à maintenant, mais sous une autre forme. Sous une forme, ça vient d'Hachem. Il y a dans Rambam, dans Hilchot Melachim, le Rambam, il parle des lois des Bnei Noach pour les Bnei Noach, et il introduit une notion, ben ce n'est pas lui qui l'a introduit, mais quand il introduit cette notion, il s'appelle Chassidei Umot HaOlam. Les pieux parmi les nations. Et qu'est-ce que c'est qu'un pieux parmi les nations? C'est quelqu'un qui accepte les lois des Bnei Noach. Mais en cela, il ne fait que ce qu'il est obligé de faire. Mais il les accepte comme venant de la Torah, comme ayant été dites par Rabbeinu. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. À ce moment-là, il s'appelle Chassidei Umot HaOlam. Autrement, c'est des gens qui font ce qu'ils doivent faire, c'est tout. Mais ils n'ont pas de qualificatif particulier. Donc, le récit que mon cher Rabbeinu a fait de ces anciennes lois, du coup, ayant accepté ces lois, et si on a fermé la période, le peuple, maintenant, il est devant un vide. Maintenant, on va leur présenter autre chose. Quand ils ont entendu ce qui a été lu du livre, ils disent, on va faire et on va écouter. C'est-à-dire, on va écouter la nouvelle relation que tu vas nous proposer. C'est ça la préparation pour le Sinaï. Le Passouk dit qu'ils sont arrivés Bayom Hazé dans le texte de Yitro. Ce jour-là. On a déjà dit que le jour en question, c'était le premier du mois de Sivan. Qu'est-ce qu'on a besoin de répéter? Bayom Hazé. Alors, il y a un fameux midrash que Rashi rapporte et qui est très connu, Il dit que quand on a dit Bayomazé, ce jour-là, ça vient dire qu'il faut que les paroles de Torah soient toujours pour toi comme si elles venaient d'être données ce jour-là. C'est-à-dire, tu dois les considérer comme quelque chose de tout à fait nouveau. Cette idée que la Torah est toujours quelque chose de nouveau, à cause du Zé, et Yom HaZé, mais le problème, évidemment, c'est que les Bnei Israël, quand ils arrivent au Sinaï, ils ont jamais. Pourquoi on met ça en rapport avec la Torah? Ils n'ont pas reçu la Torah Bichlal à ce moment-là. Comment cette histoire de ce jour-là, qui parle d'une situation où les Bnei Israël n'ont pas reçu la Torah, peut devenir un modèle pour la Torah? Que la Torah soit toujours quelque chose de radicalement nouveau. Comment c'est radicalement nouveau si on n'en a même pas encore parlé? Donc cette nouvelle époque, cette nouvelle ère, en quelque sorte, pour les Bnei Israël, elle commence avant que la Torah soit donnée. Et la Torah, elle arrive comme une espèce de réponse à ce vide dont on a parlé. On change de monde, en fait. Quand les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu lit ce texte aux oreilles des Bnei Israël, les Bnei Israël, tout à coup, d'un côté, ils prennent conscience de ce qu'ils ont entendu, qui est l'ancienne époque, quoi, quelque part. Et maintenant, il dit, on va entendre. Comme si d'avoir entendu le texte que Moshe leur a lu, leur ouvre un futur. La lecture du texte ouvre un futur. Mais comment ça fonctionne? Alors, il y a un midrash qui dit la chose suivante. Vous vous souvenez, les Bnei Israël avaient en Égypte, ils avaient ces fameux rouleaux qu'on a parlé. Ces rouleaux avec lesquels ils jouaient de Shabbat en Shabbat. Des rouleaux qui disaient que Hachem allait les libérer parce que ils font Shabbat, parce que ils se reposent le Shabbat. Alors Paro a dit, ben non, on va leur redonner plus de travail et qu'ils aient soient pas disponibles pour entendre ces mots-là qui sont des mots complètement faux. On va les empêcher de jouer. On va les empêcher de respirer dans le Shabbat. Le jeu étant une façon de respirer, justement. Donc toute l'idée du Shabbat était complètement imprégnée de ce jeu avec les rouleaux. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de la lecture. La relation qu'il y a entre l'esprit et le texte. Ça, c'était réservé au Shabbat, en quelque sorte. Le Shabbat était le moment où se faisait ce lien-là entre leur esprit, qui toute la semaine était complètement embué parce qu'ils pouvaient, tellement ils étaient soucieux de ce qu'ils devaient faire. Et le Shabbat, d'un coup, ils peuvent respirer et ils entrent en contact, en relation avec ces textes-là. Ce que Paro, effectivement, a bien compris comme étant extrêmement dangereux et il veut les empêcher de le faire. Donc Paro, il a reconnu que il avait un grand ennemi, en fait, c'est cette capacité de lire. Il voulait dire, en fait, d'en lire, quand vous lisez les choses, c'est tout le temps les mêmes, donc ça veut dire qu'il faut réinterpréter. On va relire, réinterpréter, se réapproprier les mots de ce texte. Ça, c'est dangereux pour un empire totalitaire, en fait, comme celui de Paro. Le langage, c'est ce qui va permettre aux gens de refuser d'accepter obligatoirement le monde tel qu'il est. On peut le penser autrement. Avec le langage, on peut dire les choses différemment. Et on peut s'inspirer justement de ces textes qui parlent de quelque chose de totalement impensable en Égypte. On parle de la libération, d'une libération complètement impensable en Égypte. Personne ne pouvait penser ça. Il y a un autre exemple de la transformation qui est faite quand on lit quelque chose. Il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Hachem parle à Moshe et il lui dit, fais-moi plaisir, dis à Aaron, parle à Aaron de sa mort. J'ai honte de le lui dire, il va mourir, mais j'ai honte de le lui dire, j'ai pas envie de lui dire. Alors, Ravuna dit au nom de Rav Tanhoum, Barchia, qu'est-ce que Moshe va faire? Alors, il s'est levé le matin, très tôt, et il est allé chez Aaron. Il a crié, Aaron, mon frère. Alors, Aaron est descendu. Lui parler, il lui a dit, mais comment ça se fait que tu viens si tôt ce matin? Alors Moshe lui a répondu, il y a un davar. Alors davar, comme vous savez, ça veut dire à la fois la chose et aussi le mot, parole. Il y a un problème de Torah qui m'a préoccupé pendant toute la nuit, m'a donné de difficultés, en fait, m'a posé des difficultés. Et c'est pour ça que je suis venu en parler si tôt. Alors, elle m'a dit, mais quel est le problème? Alors, Moshe lui a dit, je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que c'était dans le Sefer Bereshit. Amène-le, on va lire en même temps. On va lire ensemble. Ils ont amené le Sefer Bereshit et ils l'ont lu, une histoire après l'autre. Et Aaron a dit, au fur et à mesure, Aaron disait, non, Hachem a fait quelque chose de bien là. Il a bien créé les choses. Mais quand ils sont arrivés au récit de la création de l'homme, Moshe a dit, qu'est-ce que je peux dire sur Adam? Par sa faute, la mort est arrivée dans le monde. Alors Aaron a répondu, mon frère Moshe, tu ne pourras quand même pas dire que tout à coup, sur ce plan-là, on va pas accepter ce qu'Hachem a déjà fait. On a lu que Adam et Chava ont été créés. Et comme on sait que il y avait 13 choupot à leur mariage, ils étaient dans le Gan Eden. Et on sait que Adam a mangé du fruit de l'arbre qu'il ne fallait pas manger. Et voilà, Hachem lui a dit, ben, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Donc finalement, ben, tout le monde retourne à la poussière. Alors Moshe lui a dit, Dieu lui a dit, mais et moi, qu'est-ce que je peux devenir? Mais qui peut contrôler le Malach HaMavet, l'ange de la mort? Et toi? Qui peut empêcher la mort d'arriver? Est-ce que notre fin n'est pas la même, obligatoirement? On a quelques années à vivre, peut-être 30 ans, peut-être 20 ans. Et Aaron a dit, non, c'est quelques années. Alors Moshe a commencé à diminuer jusqu'à ce qu'il parle du jour de la mort. Alors du coup, Aaron a senti que ses os commençaient à se cogner. Alors peut-être que le davar, le mot, la chose était pour moi. Alors Moshe lui a dit oui. Alors, tout le monde a vu immédiatement que Aaron s'est effondré en quelque sorte. Marqué dans le passouk que toute la communauté a vu que Aaron était en train de mourir. En fait, il était mort, en fait. Alors Aaron a dit, mon cœur est mort en moi et la terreur de la mort m'habite. Alors Moshe lui a dit, tu acceptes la mort? Et il a dit oui. De la même manière que Rashi explique le livre Sefer HaBrit, Rashi l'a expliqué ce qu'était Sefer HaBrit, c'est-à-dire un objet qui va être lu et qui commence à Bereshit. Ça veut dire que quand on lit un texte, alors d'une certaine manière, ça va faire arriver le message caché du texte. Tant que tu ne le lis pas, alors bon, il a écrit. Quand on le lit, il va raisonner, il va prendre, il va exister d'une autre manière encore. D'abord, Aaron il est impressionné par la beauté de la création qui est décrite dans le Sefer Bereshit. C'est Moshe qui va soulever le problème de la mort. Et qui va amener la discussion sur un plan personnel, parler de sa mort à lui. Et quand Aaron comprend que, mais peut-être que ça me concerne moi, alors le Midrash parle de la terreur de la mort, etc. Ce qu'on voit, c'est que tout ce travail-là n'était possible qu'en lisant ensemble un texte. Donc, il y a tout un travail qui s'est fait. Tout ça, c'est pour illustrer ce qui s'est fait comme travail au moment de la lecture du Sefer HaBrit. Il s'est fait un travail qui a amené les Bnei Israël à comprendre qu'ils avaient besoin d'autres choses et qui vont maintenant recevoir autre chose. D'abord, il a fallu faire le vide pour jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on a besoin de quelque chose d'autre et les mettre en situation d'accepter ce quelque chose d'autre, à la limite, même sans le connaître. Parce que on a besoin de quelque chose qui nous remplisse, quelque chose qui fasse vivre, même si on ne le connaît pas, on ne peut pas rester avec ce vide. Il faut quelque chose. Et c'est ça que, d'après Rashi, c'est ça sa lecture. C'est la raison pour laquelle Rashi, il force le texte en disant, on va dire que ce texte-là, il faut le lire avant Matan Torah. Parce que c'est un texte qui prépare Matan Torah, mais d'une façon très intéressante. En fermant la période précédente, en ouvrant une période, mais en mettant les Bnei Israël dans la position de bien comprendre, grâce à la lecture du livre qui raconte l'ancienne période, quelque part on comprend qu'il en faut. C'est une nouvelle, comme la mort chez Aaron. Ici aussi, c'est les Bnei Israël vont recevoir la Torah, vont recevoir un nouveau message, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour eux, c'est une nouvelle naissance pour eux. Voilà.
La première étape, elle se clôture,
Oui.
mais elle reste
C'est
retenue.
clôturé. Pour les Bnei Israël, elle est clôturée. Voilà, on s'arrête là. Je n'avais pas là. Annie est là? Non. Non. Bon, ben, il va falloir.
C'est bien que vous me semblez bien.
C'est juste, oui.
C'est la première fois que vous déjà. Oui, elle
Ouais.
est déjà depuis longtemps, mais là.
Alors voilà, vous pouvez la saluer. Elle vous voit.
Oui. C'est génial. Magnifique.
Le chef de l'État, il de